est 23h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Alors on va continuer à vous expliquer, grâce à Philippe Bruno qui est avec nous, comment se construit notre sexualité. Vous êtes notre éducateur sexuel, hein, Philippe Bruno.
Éducateur, en tout cas, j'essaie de vous amener sur des bonnes pistes, si on peut.
Non mais c'est important, parce qu'il faut rappeler quand même que vous êtes à la fois psychiatre. Bon, ok, ça... c'est pas très important, parce qu'il y a plein de psychiatres qui connaissent rien à la sexualité, ce qui n'est pas votre cas évidemment, parce que vous êtes sexologue, vous êtes anthropologue, donc ça veut dire aussi que vous avez étudié l'humanité depuis la nuit des temps, c'est pas rien. Et puis vous avez aussi fait beaucoup d'enquêtes, vous avez fait deux enquêtes avec deux livres très importants, les hommes et les femmes, un livre sur les hommes,
femmes. Effectivement, dans ce type d'études, et je crois qu'on ne peut pas faire autrement si on veut comprendre les choses, il faut dépasser l'expérience propre, qui est très intéressante. Il y a des tas de témoignages individuels. Et là, par exemple, les deux études que j'avais fait avec l'Observatoire du couple, c'était 3400 femmes, 2500 hommes. Et quand on se rend compte, lorsqu'on interroge autant de gens sur des éléments de l'intimité, que par exemple sur telle ou telle question, vous avez 80% des hommes ou des femmes qui répondent de la même façon, vous sentez qu'il y a une tendance qu'à avoir, alors avec des choses apprises, avec des choses qui font partie de notre nature, bien sûr.
Et on devrait conseiller à tous les blogueurs qui parlent de sexualité de lire peut-être Monster & Johnson, le rapport Haidt, vos livres, parce que c'est vrai, moi ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus jeunes que nous et qui parlent de sexualité très très bien, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut se baser sur ce qui a déjà été découvert, il faut pas inventer sous prétexte
choses qu'on sait, parce que beaucoup de gens se disent mais non, la sexualité, d'abord je fais l'amour donc je sais ce que c'est plus complexe, et notamment lorsque on a des difficultés, parce que très souvent, et une part des auditrices et auditeurs peuvent avoir telle ou telle difficulté, souvent on en parle ici à l'émission. Bon, Brigitte, il y a énormément de réponses qui sont données. Il y a des choses que nous savons, et c'est pas de l'intuition. Et pour moi-même, c'est pas parce que j'ai vu tant de patients, c'est que il se trouve en même temps qu'il y a des connaissances dans le domaine de la sexualité, de la sexologie, qu'on essaie de transmettre. Et là, on se trompe pas, parce que sinon, effectivement, on peut être suivi par des gens qui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, j'allais dire, de pseudo-sexologues, parce que c'est vrai on peut s'installer sexologue, chacun des auditeurs peut le faire, mais c'est pas parce que on se sent bien dans sa sexualité, tant mieux. La sexualité, c'est plus complexe pour essayer d'aider les autres dans leurs difficultés.
Absolument, il ne faut pas parler de soi, il faut écouter les autres et se servir de sa connaissance, même si évidemment l'expérience est nécessaire aussi, parce que je ne pense pas qu'on puisse être sexologue si on n'a jamais fait l'amour. À mon avis, on aurait des réponses peut-être inhibantes. Alors, avant de donner la parole à Sylvie qui nous rejoint, je voudrais la réponse à ma devinette. Donc, un acte sexuel sur le plan des calories, ça correspondrait à une course de 7 km. Alors, pourquoi c'est faux ?
Alors, parce que moi, je me suis dit, 7 km à pied, ça use, et puis je n'ai pas trouvé quoi.
Parce que, comme les hommes font en général l'amour en 2-3 minutes, on ne peut pas courir 7 km en 2-3 minutes, Philippe Bruno, donc c'est une connerie.
Allez, c'est une petite connerie, mais c'est marrant, oui. Merci, Brigitte.
Sylvie est avec nous. Je crois que vous aussi, vous allez recevoir un jouet, puisque vous acceptez de témoigner dans cette très belle émission que je fais avec Philippe Bruno. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Brigitte. Bonjour Philippe.
Alors, vous avez, vous aussi, reçu une éducation assez stricte, décidément.
Oui. Oui, très stricte, quasiment militaire. J'ai fait mes expériences toute seule, parce que c'était très tabou à l'époque.
Donc aucune information de la part de vos parents.
Non.
Et vos règles, elles vous avaient prévenu, votre mère, ou même pas ?
Non, j'avais caché que j'étais réglée, quoi.
Mais vous saviez, ou vous cachiez parce que vous aviez peur ?
J'avais honte.
C'est ça, oui. Et ça, c'est terrible.
Oui. J'avais honte.
On ne sait pas de quoi, mais vous aviez honte. Mais oui.
Oui. C'était bon. Bon après, pourtant j'étais la dernière des enfants et je voyais mes sœurs régler, mais moi j'avais honte.
Et vous pouviez pas en parler avec vos sœurs ?
Non, parce qu'on avait quand même comment dirais-je, les plus grandes étaient déjà parties, mariées, oui. Et avec mes sœurs qui étaient avant moi, non c'était très très tabou. Surtout quoi, on se cachait pour se laver, c'était comment dirais-je
oui le corps en quelque part était rejeté,
il y avait une morale religieuse peut-être qui vous
non, pas religieuse, mais bon c'était notre éducation quoi, oui. Il fallait se taire et
Est-ce que avec le recul, vous avez des explications sur ce comportement de vos parents, pourquoi le corps et tous les plaisirs que le corps peut apporter étaient tabous? Parce que c'est pareil, se laver, c'est un plaisir dans des familles à peu près normales, hein. Tandis que là, j'entends bien. Vous avez aujourd'hui des explications? Qu'est-ce qui aurait d'où ça venait? C'était de leurs propres parents, c'était
de mes grands-parents certainement aussi, hein, parce que mes oncles et mes tantes et mes cousines, c'était pareil. Hein, c'était,
d'accord, donc c'est vraiment ça remonte.
C'est dans une région particulière. C'était dans une région particulière, en milieu rural, peut-être.
Ah non, dans une grande ville, hein, encore en plus. Hein.
Milieu ouvrier, peut-être?
Oui.
Non, oui. D'accord. Très pauvre, ça, ouvrier, sans doute.
Ouais. Mais oui,
c'est pour ça, ouais.
Parce que très souvent, lorsque, à une génération, souvent, vous savez, on est le réceptacle des difficultés des générations précédentes. Si, par exemple, il y avait des difficultés ou grandes difficultés, c'est par la rigueur, par les interdits qu'on s'en sortait. Puis, on a parlé d'éducation militaire où, c'était quand même des époques où il y avait toujours une guerre. Et en définitive, il fallait être prêt à se défendre, et notamment dans des milieux sociaux difficiles. Bah, il fallait. Alors, ça n'excuse rien, mais d'une certaine façon, je pense que ça culpabilise pas non plus. C'était comme ça. Vous savez, on le disait d'ailleurs, c'était comme ça.
Et vous étiez pareil, une famille nombreuse, d'après ce que j'ai entendu.
C'est ça, oui. Mais j'ai pas manqué d'amour avec ma maman. Elle était très aimante. Mon papa, non moins, parce qu'il partait beaucoup en déplacement. Hein, on le voyait que le week-end.
Il travaillait beaucoup, j'imagine.
Il travaillait beaucoup.
Oui, donc c'est une famille de devoirs.
Hein, bien sûr.
Oui.
On en aimerait un peu plus des comme ça aujourd'hui, hein, remarquez Sylvie.
Oui, puis le devoir, ça interdisait la jouissance, parce que on était dans l'obligation. Il y avait des contraintes et il fallait surtout pas se laisser aller. Ça va à l'encontre de ce que demande la sexualité. La première condition de la sexualité, c'est le lâcher prise. Et on peut se relâcher si on est dans la contrainte et dans l'obligation. Et bien effectivement, on peut pas se relâcher.
Et alors, comment vous avez, qu'est-ce qui vous a permis de vous libérer un peu de toutes ces contraintes?
Comment dirais-je, moi je suis découverte de très bonne heure, hein. J'avais 12-13 ans, quoi.
Ouais.
Je me suis découverte
toute seule,
en l'avant, hein. Je me suis touchée, caressée, et j'ai eu une sexualité très jeune. À 15 ans, j'ai eu mon premier rapport, hein.
Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez fait le contraire. Vous êtes parti à l'inverse de ce que votre famille vous avait inculqué.
Oui. Et je crois que je suis la seule des frères et sœurs. Hein.
Vous êtes la rebelle, vous êtes le vilain petit canard.
Très rebelle déjà.
Oui, c'est
jeune,
non mais absolument. Mais on le voit souvent dans des familles comme ça très strictes. Mmh. Et il y en a toujours un ou deux qui va être rebelle et qui va justement jouir, c'est s'opposer à sa famille.
Hein. Et vous étiez la plus jeune, hein, je crois, c'est ça?
Oui, la plus jeune. Mais je me suis découvert et sexuellement, j'ai découvert à 15 ans. Après, j'ai connu mon mari, mon mari, oui. Mm-hmm. Maintenant, on n'est plus ensemble, mais on a eu une sexualité très épanouie. On a fait du libertinage ensemble. J'étais mariée pendant 36 ans. Hein, je me suis séparée, ça fait 5 ans. Et là, j'ai connu un homme un petit peu plus jeune que moi. Car on a 5 ans d'écart, quoi. J'ai 62 ans. Mmh. Et on vit une sexualité très épanouie, quoi.
Oui, parce que vous avez très vite appris sur le tas, hein, puisque c'est pas vos parents qui vous ont ouvert à ça, mais bravo, ça montre que tout est possible. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je trouve toujours intéressant, c'est qu'il y a pas, de dogme dans la manière dont se construit la sexualité d'un être humain. C'est chacun va faire comme il peut. Hein.
Oui, et puis vous avez appris toute la vie, parce que vous dites bien, il y a des étapes. D'abord, vous avez appris par vous-même. Alors peut-être le hasard, parce que la sexualité féminine, la découverte de la jouissance féminine, c'est quelquefois une histoire de hasard. Moi, j'ai demandé cela à tant de femmes qui racontent le début de leur sexualité, et vous le dites, un jour, pendant une toilette, vous découvrez quelque chose, tiens, c'est curieux, sensation particulière qui vous intéresse. Et à partir de là, vous allez vous autoriser à aller plus loin. Mais si par exemple, soit on vous avait totalement interdit, on avait parlé tout à l'heure, on entendait quelqu'un chez qui on avait attaché les mains, ou c'était la sœur avec qui on attachait les mains, mais peu importe. C'est-à-dire qu'il y avait un interdit de se toucher, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, l'interdit n'avait pas été donné, même si on vous parlait pas de sexualité. Le hasard a fait aussi que vous vous rencontriez. Parce que combien de filles ont dit, j'ai jamais compris, et le hasard n'a pas fait.
Évidemment. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup Sylvie de ce témoignage.
Merci Sylvie.
Sud Radio Prades.
105.7.
Sud Radio.
Il y a ma main dans la fenêtre, titanique. Il y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
You make me feel good.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Bruno est avec nous et on continue à vous expliquer comment on se construit notre sexualité. Et puis, ben, je suis sûre que tout le monde qui nous écoute là, Philippe, est en train d'essayer d'analyser justement comment il s'est construit sexuellement.
Oh, peut-être pas quand même.
Et peut-être que vous découvrez des trucs absolument formidables sur votre sexualité. On va continuer avec Méline qui est avec nous. Bonjour Méline.
Oui, bonjour.
Bonjour Brigitte,
bonjour Philippe. Mon témoignage ressemble pas mal à celui de la personne précédente, hein, sauf que en fait, donc je sors d'une famille, j'étais la deuxième, ma sœur avait 18 mois de plus que moi. Je suis partie très tôt de la maison. J'avais une mère qui était vraiment très très coincée à ce niveau-là, qui ne nous a jamais parlé de rien. Et j'ai eu la chance de partir pendant un an en Angleterre avant de poursuivre mon cursus scolaire. Et du coup, c'est en Angleterre que j'ai découvert la sexualité. Donc c'était un peu
C'est en quelle année que vous partez en Angleterre?
Je suis en 77. Donc vous voyez que ça.
C'est important parce que c'est en effet à cette époque-là qu'en Angleterre les fameuses petites anglaises, à nous les petites anglaises là, étaient peut-être un peu plus en avance que les françaises.
Il y a eu les suédoises et puis il y a eu les anglaises.
C'est vrai.
À l'époque, il y avait des Iraniens absolument magnifiques qui étudiaient là-bas. Et dans les cours du soir, j'en ai rencontré un. Et malgré ma peur absolument terrifiante que j'avais de mon père, et surtout j'avais peur qu'il s'aperçoive qu'il y a quelque chose de changé en moi quand je rentrerai au foyer, j'ai passé le cap. Le problème, c'est que j'étais quand même relativement déçue de l'expérience. Je trouvais que c'était, on en faisait tout un plat. J'avais lu ça dans les livres, dans beaucoup de livres, et c'est vrai que ça me faisait quelque chose dans le bas du ventre, mais j'avais jamais été plus loin, j'avais jamais été curieuse.
Oui, mais vous n'étiez pas, vous n'étiez pas amoureuse. Oui. Vous le trouviez beau, mais vous n'étiez pas amoureuse.
Ah si. J'étais très amoureuse. Mais par contre, juste à la pénétration, ça me faisait pas grand chose. Mmh. Et donc quand je suis rentrée un an plus tard, j'en ai parlé à ma sœur, mais elle me dit mais est-ce que tu te caresses? Tu t'es caressée en même temps? Me caresser? Et j'avais presque 18 ans, vous imaginez? J'ai jamais touché là en bas. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que nous, ce genre de geste, c'était totalement prohibé. Mmh. Et ça me serait même pas venu à l'idée. Même si des fois, j'avais des sensations.
Alors que votre sœur, visiblement, était assez dégourdie, parce que c'est une époque quand même où se caresser en étant pénétré, c'était pas toutes les femmes qui avaient compris ça, hein.
Non. Tout à fait, mais elle avait lu beaucoup, elle les lisait beaucoup. D'ailleurs, la suite a fait que j'ai largement dépassé le maître. Mais du coup, j'ai essayé ce jour-là, et je crois que je me suis fait jurer au moins une dizaine de fois dans la journée, et qu'après, j'ai plus jamais arrêté, quoi. ça a été la clé de qui, c'était fantastique. Oh, j'ai dit, mais nom de Dieu, mais ça marche, et ça marche très très bien. Donc après, j'ai bien compris que moi, j'étais surtout clitoridienne et pas vraiment vaginale.
Comme 70% des femmes.
De la moitié des femmes n'ont pas d'orgasme directement lors de la pénétration vaginale.
Oui, c'est ça, mais alors bon, les hommes le comprennent pas toujours et ils sont très très vexés des fois que leur seul bel engin.
Mais Méline, c'est même invraisemblable qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup d'hommes qui ne le savent pas, parce que quand même depuis le temps qu'on en parle.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous. J'avertis. Au début, je vous avertis, moi, et en plus, je suis peut-être très particulière, mais il y a vraiment que mon doigt qui réussit à faire quelque chose. Donc, j'ai même du mal à me laisser toucher.
Il y en a qu'un. C'est un doigt en particulier.
Croyez-moi, quand je me coupe le doigt, je suis très malheureuse.
Oh là là.
Parce que je peux pas m'en servir pendant un moment.
Faut le protéger, ce doigt, Méline.
C'est le doigt en or.
C'est le doigt en or, oui.
C'est tout à fait ça. Mais bon, après, j'ai appris sur le tas, forcément, mais elle m'a donné la clé et je la remercierai jamais assez, parce que si elle m'avait pas fait découvrir, j'aurais certainement découvert.
Il y a bien un homme qui vous l'aurait fait découvrir, parce que comme visiblement vous jouissez quand même très facilement.
Ah, pas tellement, puisque il y a que votre doigt qui fonctionne.
Oui, bien sûr, mais enfin, ça fonctionne bien.
Ah oui, mais les hommes d'ailleurs doivent pas comprendre, parce qu'ils disent mais enfin j'y arrive pas. Mais bien sûr. Et vous avez dit donner la clé. Il y en a qu'une clé, il y en a une seule. Et vous savez comment se dit clé en grec?
Non.
C'est clitoris, c'est étymologiquement, ça veut dire la clé.
Ah
C'était autrefois la clé de la sexualité. Et donc vous avez la clé par votre doigt et sur cette région un peu magique.
Oui, c'est vrai, mais je le regrette parce que, en fait, je trouve que un homme, il devrait y avoir des cours pour qu'ils apprennent à caresser un clitoris, parce que ben nous, on nous donne bien toutes les clés pour arriver à leur faire des sélections.
Soyons quand même, rendons aux hommes quand même ce mérite. Dans la dernière enquête sur la sexualité des Français, qui date d'il y a un peu plus d'un an, montre qu'il y a plus d'hommes qui pratiquent des cunis que de femmes des fellations. Hein, donc soyons, oui. Donc les hommes sont bien plus. Sont bien, bah vous avez peut-être pas rencontré les bons, Méline, mais c'est normal avec votre doigt magique.
Que vous oui, voilà. Et puis, vous savez, le fait qu'un homme ne puisse pas parvenir à ce que vous faites avec votre doigt magique, ça vient uniquement de votre doigt magique, ou plutôt de la façon dont vous êtes habitué à des sensations très particulières qui vont permettre de le déclencher. Et d'ailleurs, ce que moi je fais souvent avec des patientes qui sont gênés parce que je ne peux obtenir du plaisir que de telle façon, eh bien, je vais leur demander, vous allez essayer de faire des tas de choses différentes vous-même d'abord. Et petit à petit, on voit que tout un tas d'autres choses deviennent possibles. Ça ne se fait pas immédiatement, c'est des habitudes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est conditionné. Vous n'étiez pas comme ça à la naissance, et vous êtes devenu dépendante de votre doigt magique.
Et plus vous allez penser qu'il n'y a que votre doigt magique qui peut le faire, moins vous aurez des chances qu'il y ait autre chose qui vous amène à la jouissance. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on a dans un sport, on a un mauvais geste, que ce soit par exemple au tennis, hein, pour parler de tennis, puisque c'était Roland Garros la semaine dernière. Et ben, pour se défaire de ce mauvais geste, c'est toujours très compliqué. Alors là, c'est pas un mauvais geste, votre doigt magique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est très compliqué de se défaire d'un mais on peut toujours y arriver. Donc, soyez pas, ça, un jour peut-être, Il y aura autre chose qui vous déclenchera l'orgasme.
Non, bien sûr, mais j'ai essayé. Et c'est vrai que j'ai eu des cunnilingus fantastiques, etc. Mais à un moment, si vous voulez, c'est trop léger, ça va pas au rythme où j'ai envie, etc.
Oui, mais vous lâchez pas.
Oui,
mais voyez, vous lâchez pas. C'est-à-dire, vous êtes là en train de vous dire bon, d'accord, ok, mais il y a mon doigt magique qui va faire ça mieux.
Ça fait ça plus vite.
Mais parce que vous avez ça dans la tête. Voyez.
Oui, certainement.
Vous n'êtes pas à ce moment-là dans votre ressenti des sensations qu'on vous procure. Vous êtes dans votre tête en train de vous dire, bon, de toute façon, je vais y arriver avec mon doigt magique. Vous voyez?
Et c'est ce
conditionnement qu'il faut un petit peu laisser de côté de temps en temps.
Ben oui, c'est ce qui s'appelle le lâcher prise. Tiens, je lâche la prise sur mon doigt magique. J'abandonne totalement mon corps. Mais est-ce que j'ai envie d'abandonner totalement mon corps à quelqu'un qui sait peut-être pas très bien faire?
Et vous touchez des doigts, le problème, c'est que je le pratique pas dans la vie déjà.
Bien sûr.
J'ai très beaucoup 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 de mal à faire confiance, donc c'est un tout. Vous avez raison, vous avez complètement raison. Mais c'est vrai que j'avais pas compris que c'était lié à ce point.
À ce point, oui. Mais attendez, vous avez votre doigt magique, alors on va pas vous plaindre.
Hein. non, c'est certain. Mais bon, peut-être que effectivement, je laisse pas beaucoup de chance à l'autre d'y arriver. Parce qu'effectivement, je fais pas assez confiance et je pratique pas assez.
Écoutez,
lâcher prise, vous avez tout à fait raison.
Peut-être qu'un jour vous aurez envie de faire confiance quand vous rencontrerez celui qui peut-être arrive à vous ouvrir un peu plus.
Il s'appellera Merlin. Ça sera Merlin l'enchanteur.
Merlin l'enchanteur.
Moi, je cherche depuis. Ouh, d'où ça.
En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage et de votre bonne humeur, Méline.
Merci, Méline.
On fait une petite pause, on se retrouve avec le sexo-conseil. Comment mettre de l'audace dans sa vie sexuelle? Et puis, on continue bien sûr avec vous à parler de la construction de la sexualité.
Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+.
Sud Radio.
C'est bon. Supprimer les traces, la moindre
geste de candeur. Un morceau de glace à la place du cœur. Même si je m'améliore, oh, j'en rêve pas encore. Rien sentir, inconscient minéral, que le moindre désir, plus de peur ni de mal. Oh, et même si je m'en
et Sud Radio, le sexe au conseil.
Alors, Philippe Brenot, on va voir comment mettre de l'audace dans sa vie sexuelle. Alors, d'abord, il faut trouver quel est le ressort qui va permettre de lâcher quelque chose. Alors, je vous propose un petit test. Vous imaginez que vous êtes avec la star de vos rêves.
Oui.
Et quelle serait votre manière de lui faire l'amour? Et déjà, votre réponse va vous en dire un petit peu plus sur votre capacité à vous mettre en route sexuellement. Parce que là, on est dans l'imaginaire, avec une star, donc on est prêt à développer des tas de choses, voilà. Ensuite, il faut que vous sortiez du cadre, évidemment,
oui.
C'est-à-dire de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, il y a plusieurs manières de sortir du cadre, par rapport au lieu, par rapport à une position, par rapport à des actes. Et évidemment, il faut oser quelque chose de nouveau. Alors, plus on est dans des habitudes très régulières, répétées, pour
oui,
pas dire à la routine.
C'est facile de faire quelque chose de nouveau.
Oui, mais moins on a envie.
Et moins
parce
on
que
a envie.
C'est toujours pareil. Parce que quand on est dans une sexualité très routinière, c'est certainement
oui.
parce qu'il y a beaucoup de blocages qui sont un peu inscrits
si
sans
aussi,
qu'on s'en rende
oui.
compte. Et, ou alors il y a des croyances, enfin bref, ou une éducation un peu trop stricte. Et pour débloquer tout ça, c'est pas simple. Alors, il faut d'abord, Voir ce qui pourrait vous empêcher de faire autrement. Qu'est-ce que vous penseriez si vous faisiez autrement? Et puis
j'aurais
après.
J'aurais honte. Je serais.
Voilà, elle va pas aimer.
Oui.
Je risque de perdre mon érection. Enfin,
je peux ne pas être à l'aise. Oui.
Il y a plein de raisons qui font que vous vous êtes habitué à cette routine.
Mais
qu'en même temps, cette routine, vous la trouvez un peu.
C'est comme ça que la routine, elle se limite quelquefois à peu de choses parce qu'il y a le rhumatisme de l'un, il y a l'habitude de l'autre, la peur d'une troisième position. Oui, bien sûr.
Et donc, il va falloir oser un petit changement. Tout petit changement pour vous rendre compte que quelque chose de nouveau, ça apporte beaucoup, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Et donc un petit changement, pourquoi pas de lieu, pourquoi
déjà
pas...
changer de lieu, c'est certainement parce qu'on est quand même tous dans des lieux qui sont contraints. On vit si on vit en ville, on vit dans un appartement, il y a 2-3 pièces, on fait souvent d'ailleurs l'amour toujours dans la même pièce, quelquefois dans une autre, mais changer totalement de lieu va complètement changer la façon de se comporter, de vivre, de ressentir l'autre, oui.
C'est pour ça que il faut imaginer qu'on fait l'amour avec une star. Ou alors c'est vrai que la pornographie parfois donne des idées. Hein. Il faut lui reconnaître.
C'est pour ça que c'est... Oui, bien sûr.
Il faut lui reconnaître cette utilité. Ophélie, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Émilie.
Eh bien, on vous écoute. Alors, vous vouliez faire l'amour au départ avec un prince charmant, c'est ça?
Ouais, je vivais dans le monde des bisounours.
Mon
idée de la vie, c'était ça.
Vous savez, voilà. moi aussi, alors, comme quoi, tout peut bouger. Hein.
Voilà, tout à fait.
Moi, j'ai pas tellement rêvé de prince charmant, mais...
Une princesse, peut-être.
De princesse, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, après, moi, j'avais ma mère assez jeune, bon, on avait parlé de règles, de faire attention, que si le jour où j'avais envie de prendre la pilule... Après, mes parents n'étaient pas très démonstratifs eux-mêmes dans leur couple.
Mais quand même, vous avez eu les informations minimales.
Oui. Pas complètement. Le jour où j'étais décidée, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit, je voudrais prendre ma pilule, il n'y a pas de problème. Après, j'avoue, j'ai très mal commencé. J'allais avoir 14 ans, j'ai été violée. Donc, l'acte n'était pas quelque chose qui m'intéressait, du coup.
C'est un mauvais départ, hein. Il n'y a pas de doute.
Ouais,
hein.
Oui, tout à fait. Après, le jour où je suis vraiment tombée amoureuse, j'en ai parlé à ma mère, j'ai pris la pilule et ça s'est relativement bien passé. Il a brisé mon rêve de prince charmant parce qu'il m'a trompée à Tire-Larigot. Donc voilà, ça s'est terminé. Puis, je me suis rendu compte qu'un partenaire, c'était pas pour la vie. Voilà. Puis, je suis tombée sur le père de ma fille. Bon, c'était pas l'extase sexuellement non plus.
Ça, on s'en doute, parce que quand on dit « je suis tombée sur le père de ma fille », on se doute bien que ça n'a pas été l'extase.
Voilà. Donc, j'ai découvert le plaisir de la sexualité, donc avec les partenaires suivants. Mais toujours dans l'impression que j'étais qu'un objet sexuel, en fait, et qu'il n'y avait pas forcément cette idée qui s'était intéressée à moi, vraiment pour moi, et que pour la sexualité. Donc, les vies de couple allant, j'étais déçue à chaque fois. Donc, on va dire que ça fait, une dizaine d'années que je vous écoute. Et du coup, je m'étais rendu compte que je m'étais mis des barrières aussi, où je ne faisais l'amour que quand j'avais des sentiments. Voilà,
merci de rappeler cette chose-là, Ophélie, parce qu'il est évident, et c'est une femme qui vous le dit, donc je suis moi aussi pu parfois tomber dans ce travers. Quand on est amoureuse d'un homme, on va être tellement dans son désir à lui qu'on en oublie notre propre désir. Et donc, si on ne fait l'amour que quand on a des sentiments, on ne peut être qu'un objet sexuel, puisqu'on ne va faire l'amour que par rapport au désir de cet homme qu'on aime. Et c'est parce qu'on va accepter d'aller faire l'amour pour soi, avec peut-être un homme qu'on rencontre, qu'à ce moment-là, on va oser un petit peu demander ou faire ce qu'on a envie de faire, vous voyez.
Mais donc, du coup, je me suis ôté plein de barrières. qui se fait grâce à vous, hein, voilà, en écoutant les témoignages de tous vos auditeurs. Ça m'a libérée. Et du coup, bah, je dis plutôt, tant qu'à être un objet sexuel, bah, avoir plusieurs partenaires et devenir libertine. Donc, je m'étais préparée à l'idée jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui m'a dirigée dans ce sens-là. Et d'un profond sentiment que j'avais également d'être peut-être bi, ben ça s'est confirmé, puisque en étant dans le libertinage, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes et voilà, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les femmes. Avant cette rencontre, tout en étant encore dans le côté
qu'est-ce que vous appréciez plus chez les femmes sexuellement justement, parce qu'elles sont plus aptes à vous faire jouir avec les cunis, ou est-ce que c'est vous qui aimez faire des cunis? Qu'est-ce que vous diriez?
L'échange de caresses, tout simplement.
Le corps d'une femme plus
ou la façon de caresser qui est pas la même que qu'un homme. Oui. Effectivement, il y a le côté de je caresse un corps qui est le mien et dont je connais toutes les ressources, et c'est très vrai. C'est beaucoup plus vrai pour les femmes. Bon, j'allais dire que pour les hommes, non. C'est très vrai dans les deux sens.
Oui, un corps de femme est plus doux, plus mou, plus un corps d'homme est souvent plus dur,
oui,
hein, au niveau de la musculature, etc., etc. Absolument.
Mm-hmm. Voilà, effectivement, j'aime pas les hommes trop musclés non plus.
Et oui, du coup,
avec un petit
oui.
Doux, par exemple. Mais voilà, et entre-temps, avant de commencer le libertinage, où vous parliez de personnes âgées, j'ai eu une relation qui malheureusement a été très courte parce que, ben voilà, c'était un monsieur très âgé et malheureusement il est parti. Mais voilà. J'ai eu la chance d'avoir une très belle relation avec ce monsieur.
Oui.
Et, pardon, excusez-moi.
Je vous en prie.
Je vous en prie. Et donc, j'ai découvert donc, le libertinage dans lequel, voilà, je trouve beaucoup de... J'aime bien la diversité que ça m'apporte. Et j'ai même découvert la vie de troupe.
Voilà. En tout cas, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Ophélie, vous me direz si je me trompe, mais j'entends que actuellement vous êtes dans la recherche justement de ce que pourrait être votre sexualité. J'ai l'impression que c'est une recherche un peu ouverte à beaucoup de choses, et c'est certainement un passage. Je pense qu'à un moment donné, vous trouverez un partenaire ou une partenaire d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est une recherche. Hein,
oui, parce que vous n'avez pas fini de chercher. Ça sent,
semble,
on entend ça.
Oui, hein. On entend ça. Oui.
Ben là, je vous avouerai qu'il y a à peine 15 jours, oui. J'ai vu quelque chose d'assez troublant. Parce que j'ai fait la connaissance d'un homme que je connaissais plus ou moins, puisque je l'avais croisé déjà 2-3 fois depuis un an et demi à peu près, lors de prestations de service. Mais voilà, croisé. Et là,
ça s'appelle quoi, prestations de service?
Je suis animatrice de soirée, voilà.
D'accord.
Et donc, voilà, lors de soirée, je l'avais rencontré. Et là, j'étais pas animatrice, j'étais là pour d'autres raisons lors de cette soirée. Et quand je l'ai vu, je me suis avancée vers lui pour lui dire bonjour, puisque je le connaissais plus ou moins de vue. Et on se disait bonjour lors de ces soirées-là. Et sur le coup, même moi-même, je me rappelais pas où l'avoir vu, parce que je fais tellement de soirées que du coup, sur le coup, je me posais la question, l'impression de vraiment l'avoir déjà vu plusieurs fois. Et donc, bon, voilà, en discutant, on a retrouvé le lieu où on se voyait. Et là, un sentiment de connexion qui arrive tout doucement. Il me regardait voilà, avec intensité ici et là, et bon, ben voilà, on s'est rapprochés sans aller très loin, hein, mais puis finalement on a fini par se retrouver, ça fait 15 jours, donc déjà 2-3 fois. Et franchement, moi qui suis jamais en train d'envoyer un message, jamais appelé personne, rien. Ben là, je me trouve comme une ado, envoyer des textos toute la journée.
C'est formidable, on ne peut que vous encourager à continuer, Ophélie. Peut-être que votre recherche alors est peut-être plus terminée qu'on ne l'imaginait. Allez savoir, vous nous raconterez ça peut-être plus tard.
Sud Radio à Dijon, en DAB+.
Sud Radio. J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère tant trop au pas assez. Ouais. Tu feras la différence. La photo fige, un peu de flou, un peu de mou. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère tant trop au pas assez. Tu feras la différence.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Renaud est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue. Je rappelle que vous avez écrit beaucoup de livres. On n'a pas parlé non plus de celui-là qui peut vous intéresser. Pourquoi c'est si compliqué l'amour, qui peut vous aider aussi à mieux comprendre justement pourquoi c'est si compliqué.
Pourquoi c'est si compliqué, ça c'est vrai.
Parce que c'est vrai que c'est quand même très compliqué l'amour.
C'est pas difficile, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'amour vient d'abord... Ça ne se vit pas seul. On peut être amoureux de soi, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a les pulsions, les désirs, les pensées de l'autre sont différentes. Et là, ça devient très compliqué parce que chacun, on n'a pas résolu tous nos problèmes. Et on va cheminer plus ou moins bien avec des choses qu'on se trimballe depuis longtemps.
Évidemment. On continue et on va conclure avec vous, Arnaud. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ?
Du coup, oui, je trouve que la question est vraiment très intéressante et je dirais, pour moi, ma vision, c'est que on peut être toujours bercé entre ces deux polarités, je dirais, entre notre rythme socioculturel, dans quoi on a grandi, et nos désirs, à quoi ils sont, je dirais, conforter, et de l'autre, hein, quelque chose de beaucoup plus instinctif. Est-ce que on a vraiment la sexualité qu'on désire? Je trouve que ça, c'est un espèce de travail avec de l'expérience, en se confrontant vraiment au sujet et en expérimentant vraiment dans des choses nouvelles. Mais je trouve que en fonction des personnes qu'on rencontre, en fonction d'une vraie écoute de soi, je pense qu'on peut vraiment presque s'étonner, je dirais.
Oui, mais vous avez raison, parce que nos vrais désirs, parfois ils sont totalement enfouis, et on va souvent on commence à faire l'amour parce que on est amoureux, donc pour faire plaisir, pour s'attacher l'autre. Ou alors on fait l'amour pour se prouver qu'on est désirable. Enfin, et nos vrais désirs, parfois, on met du temps à trouver exactement ce qu'ils sont.
Mais oui, vous le dites bien d'ailleurs. Vous dites, est-ce qu'on a vraiment la sexualité qu'on désire? Mais oui, mais c'est que ça se passe pas seul. Ou alors à ce moment-là, il faut y réfléchir. Tiens, ça ne me convient pas avec tel partenaire ou autre. Le problème, c'est la rencontre. Et très souvent, le fait qu'on s'attache. Parce que, tiens, il y a eu un crush, il y a eu un... J'aime bien ce terme des plus jeunes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous... Et on est ensemble. Mais est-ce qu'on a la sexualité qu'on désire avec celui ou celle avec qui on est? Pas forcément. Hein, c'est... Vous avez complètement raison, c'est... Et d'un autre côté, est-ce qu'on doit à chaque fois interrompre la relation si elle est très ancré, hein, si on dit un attachement fort, ben on le fait pas.
Exactement, et je crois que c'est un espèce d'équilibre entre les deux, où il faut presque savoir que au final on est au détriment, comme vous l'avez dit, de l'amour, mais est-ce que ça nous enlise dans une sexualité du coup qui est je dirais orientée? Ouais, et oui. Au final, on ne s'épanouit pas, et on ne sait même pas qu'on peut s'épanouir dans une autre relation. Et en même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vraiment s'épanouir? Et je pense que c'est un peu cette mesure-là à déjà prendre en considération. Et ensuite, pour que le choix soit beaucoup plus orienté et conscient, c'est à partir du moment où on sait ça, eh bien, on va pouvoir avoir peut-être un choix plus conscientisé.
Et oui, le sexe et l'amour, c'est pas forcément
c'est pas la même chose.
Ça va pas forcément toujours bien ensemble. Mais ce qui est quand même certain, c'est qu'il y a un langage des corps. Et on peut oui. être très attiré par quelqu'un physiquement, et puis sur le plan du langage des corps, ça ne marche pas. Il y a quand même cette alchimie des corps qui ne s'explique d'ailleurs pas, comme d'ailleurs le sentiment amoureux ne s'explique pas non plus, hein, sur un plan rationnel. Ça s'explique à d'autres niveaux, mais pas rationnellement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et moi je dis toujours, oui, on peut vraiment améliorer sa sexualité quand on est avec quelqu'un, à condition qu'on ait des peaux qui quand même peuvent se sentir. Si l'odeur de l'autre ne nous plaît pas, je vois pas comment on peut arriver à une sexualité qui soit harmonieuse.
Et Brigitte, vous avez raison, parce que c'est au niveau de l'odeur, de l'olfaction, c'est le sens le plus archaïque que ça se passe. On peut très bien être attiré, et la rencontre se fait visuellement de loin. Je suis attiré par une silhouette, et j'approche, ça continue à m'attirer, les détails, il y a un toucher de la main, ainsi de suite, et si là, il y a une odeur, il y a une texture, il y a... c'est rédhibitoire. Et par contre, c'est ce qui va nous marquer le plus profondément, parce qu'il y a beaucoup de silhouettes qui nous attirent. Par contre, il y a très peu de peaux, et ainsi de suite, avec lesquelles on se sent totalement en harmonie. Et ça, exactement ce que vous dites, ça ne s'explique pas.
De même, Arnaud, quand il y a quelque chose, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a des femmes qui, par exemple, ne supportent pas les hommes très poilus. Oui, bah, oui. Si quand l'homme se déshabille et qu'il a la poitrine recouverte de poils, ça va lui couper sa libido. Il y a rien à faire. Ça sera un carton rouge, comme j'aime dire. Et vous aussi, les hommes, Arnaud, des goûts, des attirances qui sont très marquées. Et si c'est une femme qui correspond absolument pas, ça sera compliqué.
Exactement. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a permis, moi, de m'en rendre compte, c'est en fait en ayant différentes expériences avec d'autres personnes. Et c'est là où, en fait, j'ai pris la mesure et le relief de l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes, parce que oui, si l'alchimie. On arrive avec une certaine typologie de personnes, et ben on va faire l'amour de façon conventionnelle, sans en ayant, je dirais, une excitation, je dirais, normale, mais en fait c'est en ayant différentes sexualités avec différentes personnes qu'on arrive à mesurer justement cette alchimie d'une manière plus grande, je dirais. Je vais vraiment savoir qu'est-ce qui va m'attirer et me découvrir aussi dans diverses sexualités. Et c'est là où je trouve qu'on prend vraiment la mesure où il y a quelque chose qui matche ou non, je trouve.
Et je reviens sur ce que vous disiez, Philippe Bruneau, sur l'odorat. J'ai interviewé récemment Emma Becker et j'adore parce qu'elle dit de toute façon l'odeur. Si on veut que ça sente bon, le sexe, on a tout faux.
Bien sûr.
Et je crois que c'est vraiment ça, l'odeur de l'autre, quelque part, doit nous exciter.
Ah oui.
Si quand on fait une fellation ou un cuni à notre partenaire et que son odeur nous dérange un peu, ça peut pas coller, quoi. Il faut qu'elle nous excite, son odeur. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Arnaud.
Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup même le fait de croire que on reconnaît sorte d'âme-sœur ou de gens qui nous est prédestiné à l'odeur. Et qu'on a un peu changé ça avec les parfums, etc. Mais je pense vraiment que l'odeur du corps génère finalement une transpiration, une évacuation des molécules intérieures. Et donc, du coup, le fait de le sentir, c'est un premier message, je crois, une possibilité entre deux personnes, quoi.
Et donc, ça veut bien dire, pour conclure cette émission, Philippe Bruneau, que le sexe, c'est d'abord nos cinq sens, et c'est pas notre tête. Hein.
C'est nos cinq sens, et puis pas tous les sens, on le disait bien, c'est ceux de proximité, et vous le disiez aussi, il y a un instant, c'est justement cette espèce d'alchimie. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du... Dans l'alchimie, il y a quelque chose de mystérieux. Hein, on cherchait le secret de l'alchimie, et bien c'est ça, il y a un secret de l'amour qui est alchimie.
Merci Arnaud, en tout cas.
Merci beaucoup, Arnaud.
Merci beaucoup et merci à vous, Philippe Bruneau. Je ne peux que vous encourager à lire Philippe Bruneau. On vous retrouve, hein, tous vos livres pratiquement sont sur les sites, que ce soit la Fnac ou Amazon. Merci Philippe, à très bientôt.
Merci Brigitte, à bientôt.
Alors demain, on sera avec un autre Philippe, on sera avec Philippe Arlin et nous aborderons comment retrouver une sexualité épanouie malgré des abus sexuels. C'est important aussi d'aborder ce sujet parce que ça ne s'arrête pas après un traumatisme. On peut rebondir et ce sera donc avec Philippe Arlin qu'on verra tout ça. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Vous êtes fatigué.
Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'émission. Moi,
bon, alors je suis rassurée. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Oh là là, c'est moi qui suis fatiguée avec Alexandre Delovane. À demain.
Sud Radio à Toulon, en DAB+.
Sud Radio.
Elle a poussé la table basse et monté le son à fond. Il faut bien faire de la place pour virevolter dans un petit salon. Des bonds sur le canapé, sans complexe, elle se déchaîne. Ce qui bloque, elle laisse aller. Frustration, remords, ce qui peine et freine, elle danse. Elle danse pour tout envoyer valser. Elle danse. Pense qu'elle devrait plus souvent danser. Sa fille entrée par mégarde surjoue la consternation. Les ados, quand ils nous regardent, adorent lever les yeux au plafond. Elle grimace que c'est gênant. J'aime le sourire qu'elle retient. Elle ne résiste pas longtemps quand sa mère l'entraîne par la main. Elle vient, elle danse. Cette fois avec ENT, elle pense qu'elle devrait plus souvent danser.
voisin, chez lui en face, espionne le balai domestique. Même s'il entend sur tous les basses, va pour se plaindre de la musique. Mais les deux folles qui s'agitent ont l'air si libres, si heureuses, qu'il en tape du pied en rythme. Les folies sont contagieuses. Il danse. Il danse. Lui, ça s'appelle guincher. Il pense. Il pense qu'on devrait plus souvent danser. Elle danse.
Suivre, c'est votre avenir sur Sud Radio.
Down below.